Lob und Dank sei dem Herrn.
Louange.
Auch ich möchte alle herzlichst willkommen.
Et grâce soit rendue au Seigneur, moi aussi.
Im teuren Namen des Herrn.
Louange et grâce soit rendue au Seigneur. Moi aussi, je tiens à vous souhaiter à tous la bienvenue de tout cœur au nom précieux du Seigneur, en particulier à ceux qui sont peut-être ici pour la première fois aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tout particulièrement. Et puis, comme cela a déjà été mentionné, notre cher frère Goldner est parmi nous aujourd'hui. Nous sommes profondément unis dans le Seigneur depuis tant d'années. Nous appartenons au même Dieu, il n'y en a en effet qu'un seul, qui a commencé avec Israël et qui achèvera avec Israël. Et entre les deux se situe le temps des nations. Nous sommes, et ce ne sont pas que des paroles, mais nous le sommes réellement reconnaissants de pouvoir voir en ces jours la parole du Seigneur, en particulier la parole prophétique, s'accomplir. Frère Goldner a déjà mentionné ce que Frère Branham a dit, et les prophètes l'ont également annoncé, qu'à la fin des temps, les choses seront tout simplement telles que Dieu le veut, telles qu'elles se produiront. J'ai ici devant moi 3 sermons de Frère Branham. Je ne vais pas tous les lire, seulement quelques lignes tirées du sermon du 6 août 1961, c'est-à-dire il y a une bonne trentaine d'années. Et voici ce que dit Frère Branham dans ce sermon. Je n'étais pas contre l'Allemagne, j'étais contre le nazisme. Je n'étais pas contre l'Italie, j'étais contre le fascisme. Et souvenez-vous, j'avais fait à l'époque une autre prédiction dont les plus âgés se souviennent. J'avais dit 3 grands ismes vont émerger et s'imposer dans le monde. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Je lis depuis l'anglais à un instant. Et qu'ai-je dit? Ces 3 courants déboucheront sur le communisme. Voici le paragraphe suivant. Ensuite, je vous avais fait remarquer à tous et répété encore une fois, gardez les yeux rivés sur la Russie. Vous vous en souvenez? Gardez les yeux rivés sur la Russie, car tout aboutira au communisme. Et ensuite, tout débouchera définitivement sur le catholicisme. Souvenez-vous-en, à la fin des temps, tout aboutira au catholicisme. Prédication du 6 août 1961. Si nous lisons les coupures de presse et observons un peu les événements politiques, nous remarquons très clairement qui a la parole, qui a le dernier mot, qui les politiciens écoutent et qui fait également entendre sa voix. Frère Goldner me pardonnera si je le dis ici. Il a simplement fait remarquer qu'il avait dû traverser des moments difficiles. Il a traversé des épreuves très difficiles. Aucun d'entre nous, ni même plusieurs millions de nos citoyens, n'ont eu à endurer ce qu'il a dû endurer. Nous avons effectué ensemble plusieurs voyages en Israël. Et permettez-moi également de faire cette remarque. Il existe de bons et de mauvais voyages en Israël. Cher et bon marché, nous faisons les bons et les chers. Et ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Mais frère Goldner a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale sous l'occupation allemande, alors qu'il n'était qu'un adolescent de 15 ou 16 ans. Il a dû, sous les ordres de la SS, jeter ses propres compatriotes, des juifs, jeunes et vieux, des enfants et tout le monde dans les fours crématoire. Il y avait même des membres de sa famille parmi eux. Personne ne peut imaginer les atrocités qu'il a vécues ces dernières années sous l'occupation allemande. Il nourrissait une haine profonde envers les Allemands. Et cela va de soi, la dernière guerre n'était pas une guerre allemande. La dernière guerre était une guerre catholique romaine et non une guerre allemande, pas du tout. Ni Bismarck, ni Guillaume II, ni Hindenburg, personne n'aurait fait ce qu'ont fait les catholiques fervents que sont Hitler, Himmler et Goebbels. Le tout avec l'autorisation du pape et sous sa direction. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas exposer tout cela en détail ici. Quand on lit des coupures de journaux, pape, puis deux points, la communauté religieuse a défendu les Juifs. Quiconque a lu ne serait-ce qu'un peu d'histoire sait que les troupes allemandes ne pouvaient pas savoir qui était juif en Yougoslavie, qui était juif en Pologne, qui était juif en Tchécoslovaquie. L'armée allemande ne pouvait pas le savoir. Qui a livré ces gens? Qui les a trahis? Ce n'est pas aussi simple que le pape veut le faire croire aujourd'hui en affirmant que la communauté religieuse a pris les juifs sous sa protection. Ce n'est pas aussi simple que cela. L'histoire témoigne de ce qui s'est réellement passé. Que ce soit lors de la nuit de cristal ou lorsque la synagogue située à deux pas du Vatican a été incendiée, aucun pape a dit un mot. Pas plus qu'aucun évêque. Aujourd'hui, il voudrait tout présenter comme si les choses s'étaient passées autrement. Mais il n'y a pas que la communauté religieuse catholique. D'autres dignitaires ont également pris part à cela. Et je suis sur le point de dire ce soir, il n'y a plus d'exception. Désormais, tout le monde s'y met. Toutes les dénominations reviennent au sein de la communauté religieuse mère par l'intermédiaire du Conseil œcuménique des communautés religieuses. Frère Pézal m'a fait parvenir le journal Sud-Vest Presse d'Ulm qui contenait un article très intéressant publié en gros titre. Les pentecôtistes confiants quant au dialogue avec la communauté religieuse catholique. Nous savons à quel point tout a progressé. J'aurais en fait voulu apporter la lettre que m'avait adressée Duplessis en 1959 lorsqu'il était venu d'Afrique du Sud à l'époque et s'était mis dans les pas de frère Branham, subjugué par les grands miracles et les signes, mais sans comprendre ce que Dieu accomplissait à travers ce ministère formidable. Et c'est lui, en effet, qui a jeté un pont entre le mouvement pentecôtiste et la communauté religieuse catholique romaine. Et cela ne nous dérange pas, bien au contraire. Toutes les communautés religieuses et communautés religieuses libres doivent en effet être intégrées à l'œuvre de Dieu. Mais nous nous opposons à ce que les gens soient trompés et menés loin de la lumière. Je vous lis ici un extrait de l'article. Les pentecôtistes confiants quant au dialogue avec la communauté religieuse catholique. Lors d'un entretien avec l'agence de presse catholique à Bonn, Müller a déclaré le dialogue sur les fondements bibliques et systématiques de l'évangélisation a été fructueux pour les deux parties. À présent, les pentecôtistes discutent de l'évangélisation avec la délégation catholique romaine. Oui, qui doit évangéliser qui? Que signifie encore l'évangélisation au fond? Et je vais vous dire une chose. Depuis que Billy Graham s'est rendu pour la troisième fois en visite chez le pape, on a également adopté là-bas les termes évangélisation et évangéliser. Car il parlait en effet toujours d'évangélisation. Il parlait en effet toujours d'évangélisation. Et cela m'a fait penser à la citation que frère Branham vient de rapporter de Billy Graham de Louisville. Il a dit, je suis dans une ville et 30 000 personnes se convertissent. Et quand je reviens un an plus tard, je n'en trouve plus que 30. Et Billy Graham s'en est tiré à bon compte. C'était d'un rassemblement de prédicateurs et il a dit, « You lazy ministers », littéralement, vous, pasteurs ou prédicateurs paresseux, c'était à vous de suivre ces nouveaux convertis, de les encadrer, soi-disant, ces nouveaux convertis décidés et de guider ces personnes sur le plan spirituel. Mais vous ne l'avez pas fait. Et puis, frère Branham a dit, qui Paul avait-il à ses côtés? À qui pouvait-il confier les personnes qui étaient devenues croyants grâce à son ministère? Il y avait-il de grands prédicateurs? Quelques-uns... uns par-ci, quelques-uns par-là. Et puis, frère Branham a dit, Paul n'a pas seulement conduit les gens à une décision pour Christ, il les a conduits à une expérience avec Dieu, directement à Christ. Pas seulement une décision, mais une expérience avec Christ. Oui, jusqu'à l'expérience totale, pleine du salut que les croyants vivent eux aussi. On pourrait continuer à lire ici encore deux ou trois phrases. Les chrétiens des différentes communautés pentecôtistes devraient revoir en grande partie leur opinion sur la communauté religieuse catholique. En particulier, le fondement biblique de la communauté religieuse et son orientation théologique vers le Christ serait incontestable. Et c'est justement cela qui est tout à fait contestable. Il n'y a dans la communauté religieuse papale ni fondement biblique, ni orientation vers le Christ. Si tant est qu'il y en a, ce sont certains dogmes sur lesquels on s'appuie, des passages bibliques qui ont été interprétés et Marie est mise au premier plan. J'ai assisté avant-hier à des funérailles catholiques. J'ai pu à nouveau observer et vivre cela de mes propres yeux et toute cette lamentation m'a profondément bouleversé. On invoque le Christ après la mort d'une personne pour qu'il ait pitié de cette personne par sa mort, par son ascension et même par son retour, mais tout cela arrive trop tard. L'évangile doit pourtant être prêché aux hommes tant qu'ils sont vivants, tant qu'ils sont en vie. Une fois qu'ils sont morts, il est trop tard. Il n'y en a qu'un seul qui est prêché aux morts, c'est notre Seigneur, et en particulier à ceux qui étaient désobéissants et incrédules à l'époque de Noé. 1 Pierre 3:20. Nous allons maintenant aborder quelques passages bibliques. On peut également lire ici dans le sud-ouest Umschau, de plus en plus de personnes recherchent au sein de la communauté religieuse libre une religion qui puisse être vécue avec le cœur. Il est tout simplement évident que les gens sont en quête de quelque chose et cherchent. Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, nous trouverons nous aussi le moyen de continuer à proclamer l'offre divine de grâce, le plein évangile dans son intégralité, toute la vérité. Cela a déjà été évoqué, tout est en pleine mutation. Ces 70 ans ou plus, ces 70 ans ou plus, le léninisme, le stalinisme et tous ceux qui les ont incarnés, Trotsky et tous les autres, jusqu'à Marx et Engels et ainsi de suite. Mais ces gens-là vont et viennent. On a pu voir qu'une grue ne suffisait pas pour soulever cette grande figure de son socle. Une deuxième grue est alors venue s'ajouter pour soulever ces grandes figures de leur socle. Et leur gloire a disparu à jamais. Comprenez-vous pourquoi frère Branham a dit fin 1932, début 1933, les deux premiers ismes, le fascisme et le nazisme, aboutiront au communisme. Mais tout à la fin, il a dit, à la fin des temps, tout débouchera sur le catholicisme. Les 72 dernières heures, les 72 dernières heures de l'affaire Gorbatchev en Union soviétique ont servi à porter le coup de grâce définitif au communisme. Ces 72 heures, ces 72 heures de destitution jusqu'à son retour ont suffi pour porter un coup de poignard fatal au communisme. il ne restera plus que la Chine, et la Chine n'est pas une puissance mondiale. La Chine est un grand pays comptant des milliards d'habitants, mais d'un point de vue politique mondiale et prophétique, elle n'a absolument aucune signification, aucune importance. Jusqu'à la toute fin, lorsque la voie sera ouverte aux rois de l'Est pour qu'ils puissent eux aussi se diriger vers Jérusalem. Mais d'ici là, la Chine n'a absolument aucune importance. Toute l'Europe de l'Est est en pleine transformation et nous constatons que plus personne ne peut être retenu. Tout se délie, tout se libère et nous espérons que cette même situation s'étendra au domaine spirituel, que les hommes se débarrasseront de l'asservissement, de l'oppression et seront conduits vers la liberté des enfants de Dieu. Nous avons parlé aujourd'hui avec nos deux frères bien-aimés de Breslau. Et Dieu semble effectivement ouvrir des portes, en particulier au sein de la communauté religieuse romaine, dans les séminaires de prêtres de différents pays. Et je vous promets que j'irai partout où une porte s'ouvrira. Et jusqu'à présent, Dieu m'a aidé à dire ce qu'il faut au bon moment. Et il en sera ainsi à l'avenir. Nous n'y allons pas pour notre propre compte, nous y allons pour proclamer en cette fin des temps la parole de Dieu, mais avec toute la sagesse et la grâce nécessaires. Nous n'allons pas pour condamner, nous allons pour aider. Que Dieu, comme il est prévu, ouvre les portes en Pologne, en Autriche et même jusqu'à Rome. Je suis toujours de la partie lorsque des portes s'ouvrent et que des chemins se fraient pour rendre témoignage de ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et je crois que nous disposons d'une connaissance suffisante de l'histoire des communautés religieuses et que nous pouvons aujourd'hui parler à tous, grands et petits, sans que personne ne puisse nous mettre au pilori, ni peut-être nous enfoncer davantage, mais que nous disposons bel et bien d'un point de vue historique et biblique des fondements et de la vision d'ensemble nécessaire des communautés religieuses, de leur histoire, pour faire entendre une parole puissante issue de la grâce au nom du Seigneur. Et pour compléter cette réflexion, ce bouleversement politique et l'effondrement de ces ismes, fascisme, nazisme, communisme, tout cela doit se produire pour que le quatrième et dernier empire mondial que Daniel a vu ressuscite selon la parole prophétique. Apocalypse 17, 8, le pouvoir était là, puis il n'était plus là, et il est ressorti de l'abîme. Pas étonnant que Satan lui-même ait donné ce pouvoir à cette puissance. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 13, verset 2. Nous allons lire quelques passages bibliques. L'essentiel de la prédication en cet endroit est en effet l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous le disons également en présence de notre cher frère Goldner. Nous croyons que Yahvé de l'Ancien Testament est Yahshua du Nouveau Testament. Yahshua signifie ni plus ni moins que Yahvé Sauveur. Et dans l'Ancien Testament, le nom d'alliance de Dieu, le Seigneur, était Yahvé. Celui qui est éternel, celui qui existe en lui-même. Il n'avait besoin de personne, il n'avait besoin de personne pour exister. Il existe en lui-même. Et c'est bien ce que dit le nom, celui qui est éternel, le Je suis. Moïse demanda, qui m'a envoyé? Je dois répondre, quand on m'interrogera, dis-moi ton nom, afin que je puisse dire, qui c'est qui m'a envoyé? Et le Seigneur répondit, dis-leur, c'est celui qui est. C'est le Je suis qui t'a envoyé. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin. Le « je suis » de l'Ancien et du Nouveau Testament doit être le même. Il est le premier et lui est aussi le dernier, l'alpha et l'oméga. Tout vient de lui et tout aboutit en lui. Et c'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu de ne pas faire de sa révélation de soi une deuxième personne, ni de l'effusion du Saint-Esprit une troisième personne, mais de reconnaître la révélation personnelle de Dieu et de savoir que Dieu a pris un nouveau départ dans le Fils afin de engendrer tant de fils et de filles de Dieu par l'Esprit et de les appeler à une espérance vivante par la nouvelle naissance issue de la semence de la parole. Je voudrais lire dans cette brève méditation sur le prophète Daniel au chapitre 7. Daniel 7, versets 23. Et 27, il est écrit ici dans Daniel 7, verset 23 et 27, verset 23. Il m'a donc donné l'explication suivante. La quatrième bête représente un quatrième royaume qui s'élèvera sur la terre, différent de tous les autres royaumes. Il dévorera toute la terre. Il la foulera aux pieds et la broiera. Nous savons que les trois premiers empires mondiaux ont disparu, puis à partir de l'an 30 ou 31 avant Jésus-Christ, l'Empire romain a vu le jour. Il a été tantôt fort, tantôt faible, tantôt grand, tantôt petit, mais il a perduré jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, et maintenant, il retrouve une importance mondiale. Et comme le dit les Saintes Écritures ici, dans Daniel 7, verset 23, il dévorera toute la terre. Le communisme le voulait, le nazisme le voulait. Cela résonne encore aujourd'hui dans mes oreilles. Vous savez, j'ai moi-même dû porter l'uniforme à l'âge de 12 ans. Cela résonne encore aujourd'hui dans mes oreilles. Ce que nous chantions à tue-tête, moi aussi, malheureusement. Car aujourd'hui, l'Allemagne nous appartient et demain, le monde entier. Nous l'avons tous chanté de tout. Nos forces. Beaucoup voulaient dominer le monde. L'Empire britannique voulait dominer le monde. Tout le monde voulait dominer le monde. Et voilà que lorsque les traités relatifs aux républiques constitutives de l'Union soviétique devaient être signés, la vieille garde intransigeante s'y est opposée. Elle ne voulait pas de l'effondrement de son empire. Elle voulait conserver l'empire composé des 15 républiques. Et voilà que le temps n'est plus à cela, mais à ce que tout s'effondre, afin qu'un recentrage vers l'Occident ait lieu. Et ce recentrage vers l'Occident s'accompagne d'un retour vers Rome. J'ai assisté aux funérailles des trois personnes qui sont décédées au cours de ces 72 heures, de ces 72 heures, et elles ont été accompagnées et inhumées avec tout le faste, avec toutes les cérémonies de la communauté religieuse orthodoxe. Cela aurait très bien pu être un enterrement catholique romain, tout comme celui-là était orthodoxe russe. Après toutes ces années, le pouvoir spirituel s'impose de pair avec le pouvoir politique. Et nous le voyons aussi très clairement là-bas. Les papes, ils arrivent tous très bien habillés avec un turban et ainsi de suite, une longue barbe. Ça leur va plutôt bien. Nous les voyons aussi très clairement là-bas. Les popes, ils arrivent tous très bien habillés avec un turban et ainsi de suite, une longue barbe. Ça leur va plutôt bien. Mais tous ceux qui portent une longue barbe ne sont pas pour autant des prophètes. Même si les prophètes portaient la barbe, bon, d'accord, à l'époque, il n'y avait pas de rasoir comme ceux que nous avons aujourd'hui. Mais que chacun fasse comme il l'entend. Je voulais simplement souligner que tout est en pleine mutation. Ce qui se passe actuellement sous nos yeux est l'accomplissement des Écritures. Est l'accomplissement des Écritures. C'est la fin des temps. Et ce ne sont pas plusieurs systèmes qui régneront, mais un seul, celui dont parlent les Écritures, à savoir l'Empire romain, qui renaît comme il est écrit. Il dévorera toute la terre et la piétinera et l'écrasera. Daniel 7, verset 23. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Aujourd'hui encore, lorsque le représentant de Rome, ou plutôt de la communauté religieuse romaine, s'est rendu en Hongrie, il a déjà laissé entendre où il se rendra dans un avenir proche. Non pas en Serbie, grec orthodoxe, ni en Croatie, catholique romaine. Oui, c'est bien cela. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pas un seul croate n'est mort, mais 800 000 Serbes ont été assassinés par les organisations terroristes croates, ultranationalistes et fascistes. C'était quoi déjà? 800 000, oui. C'était quoi déjà? Notre frère de Yougoslavie est assis ici. Son père m'a raconté il y a quelques mois encore dans le bus ce qui s'était passé à l'époque. Qu'est-ce que c'est? Et qui marchait en tête devant la Wehrmacht allemande, l'armée allemande. L'évêque avec sa croix, suivi de tous cet encens et de ces personnes vêtues de blanc. Et ce n'est qu'ensuite que venait la fière armée, et c'était parti. Et ce qui, à l'époque, n'était pas réalisable par la force militaire est désormais possible sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré grâce au pouvoir politique. Qu'ai-je lu d'autre ici? Que ce brave homme a l'intention de se rendre à Jérusalem. Mais je vais vous dire ce qu'il a également déclaré dans un autre passage. Il ne se rendra à Jérusalem que lorsque son voyage aura été couronné d'un succès visible aux yeux du monde entier. Je me suis alors dit, oui, il doit lui aussi attendre le moment opportun. Et vous le savez bien, l'établissement de relations diplomatiques, c'est-à-dire la reconnaissance politique et les échanges diplomatiques avec le Vatican et l'État d'Israël, n'est pas encore achevé. Et malheureusement, frère Goldner, l'aveuglement pèse encore sur le peuple. Ils confondent l'Antichrist avec le Christ et pensent que ce sera leur sauveur. C'est lui qui a été le meurtrier et il le restera jusqu'à la toute fin. Mais quoi qu'il en soit, toutes choses suivent leur cours, prennent leur chemin. Nous sommes simplement reconnaissant d'avoir cette sainte parole, et nous sommes également reconnaissants que Dieu ait eu dans notre génération un prophète qui a reçu la lumière céleste afin que cette parole prophétique qui ne pouvait être comprise ne puisse être comprise qu'à présent en ces temps de la fin, qu'elle nous ait été révélée par grâce. Dans Daniel 7, versets 17 et 18, il est écrit, Daniel 7, versets 17 et 18, verset 17, ces quatre bêtes puissantes représentent quatre rois qui s'élèveront sur la terre. Verset 28, mais les saints du Très-Haut recevront la domination et la détiendront pour l'éternité. Oui, pour une éternité des éternités. Quiconque lit cette expression remarquera que le texte grec utilise ici le mot aion, qui signifie en réalité période. Un aion peut correspondre à 1000 ans, mais l'éternité n'a ni commencement ni fin. Les traducteurs ont eu du mal, en particulier avec le mot éternel et le mot éternité. Et de très nombreux endroits, ils ont utilisé les termes éternel et éternité. Ils ont utilisé les termes éternel et éternité alors qu'ils les ont confondus, alors qu'il s'agissait simplement d'un déroulement temporel ou d'une chose limitée dans le temps, comme le règne millénaire. Et il est dit dans Apocalypse 20, verset 10, et ils seront tourmentés d'éternité en éternité. C'est tout à fait impossible. Ils ne peuvent être tourmentés que d'éon en éon. Et comme je l'ai dit, le mot éternel n'aurait en réalité dû être traduit par éternel que 17 fois dans le Nouveau Testament. Le reste aurait dû être rendu par Everlasting, comme en anglais, il aurait fallu trouver d'autres mots. Mais nous le comprenons clairement. Verset 18, jusqu'à une éternité parmi les éternités, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'éon soit terminé ici par exemple le royaume millénaire. Et après cela vient à nouveau l'éternité. Le temps ne se situe qu'entre les deux. L'éternité n'a pas eu de commencement. Le temps a commencé. Le temps prendra fin. L'éternité a toujours existé et existera toujours. Je voudrais encore lire le dernier verset de Daniel 7. Voici ce qui est écrit. Daniel 7, dernier verset, verset 27. Alors, la royauté, la domination et la puissance sur tous les royaumes sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume durera éternellement. Et toutes les autres puissances le serviront et lui seront soumises. Une parole merveilleuse. Daniel était le prophète de l'Ancien Testament qui a vu la fin des temps dans des visions. C'est à lui qu'un ange est venu et s'est adressé, il le décrit de la tête aux pieds et rapporte ce que cela s'il lui a révélé, ce que celui-ci lui a révélé. On peut le lire au chapitre 8, dans Daniel 8, au verset 16, il est dit, Daniel 8, verset 16. Alors j'entendis une voix humaine qui, au-dessus de l'oulet, s'écriait à haute voix. Gabriel explique cette vision à celui-ci. Il est clairement dit ici que c'est l'ange Gabriel qui est venu vers Daniel. Il est venu vers Marie, il est venu vers Zacharie, et je me demande qui est venu vers frère Branham. Qui est venu vers Jean sur l'île de Patmos? Je lis au passage de Daniel 9, verset 21. Alors que je faisais encore ma prière, l'homme Gabriel que j'avais déjà vu auparavant dans la première vision s'est précipité vers moi à l'heure de l'offrande du soir. Nous avons déjà lu ces passages à plusieurs reprises. Je voudrais encore lire dans le livre du prophète Daniel, chapitre 12, la dernière partie du verset 7, puis les versets 8 à 10. Daniel 12, deuxième partie du verset 7. Et dès que la puissance du destructeur du peuple saint aura pris fin, alors tout cela s'accomplira. Daniel avait demandé auparavant, quelle sera la fin de ces choses merveilleuses? Et l'ange qui se tenait au-dessus des flots du fleuve leva ses mains droites et gauche vers le ciel et jura par celui qui vit éternellement. Encore un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Et voici ensuite la phrase clé. Dès que la puissance du destructeur du peuple saint aura pris fin, qui a organisé les croisades? Qui a béni ceux qui sont partis et sont arrivés jusqu'à Jérusalem? Je lis le verset 8. J'ai bien entendu cela, mais je ne l'ai pas compris. C'est pourquoi j'ai demandé, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Posons-nous aussi la question. Comment cela finira-t-il? Comment cela finira-t-il pour l'Église? Comment cela finira-t-il pour Israël? Comment cela finira-t-il? Quelle sera l'issue de ces choses? Quelle sera l'issue de tout cela? Verset 9. Alors il répondit, va Daniel, car ces révélations doivent rester cachées et scellées jusqu'à la fin des temps. Et le verset suivant nous montre à qui elles seront révélées à la fin des temps. Je lis le verset 10. Beaucoup seront triés, purifiés et épurés. Donc mis à part, purifiés et épurés. Mais les impies agiront avec impiété et aucun impie n'aura la compréhension de cela. Tandis que les sages le comprendront. Et qui sont ces sages? à qui le Seigneur a ouvert l'esprit pour comprendre les Écritures, comme il est dit à la fin d'Apocalypse 13, verset 18, que celui qui a de l'intelligence calcule ce nombre. Beaucoup ont un esprit très vif d'un point de vue terrestre, mais les choses divines et spirituelles ne s'interprètent pas avec un esprit vif et philosophique, mais comme Daniel et d'autres qui ont reçu une grâce particulière de Dieu et possédaient une sagesse supérieure, à l'instar de tous les érudits, les divins, les interprètes de signes et tous ces gens. Et il en va de même à la fin des temps. Dieu a établi un ministère prophétique pour révéler la parole prophétique, l'éclairer et la mettre à sa juste place. Tout à sa place, mais doit être mis à sa place. Tout à sa place, mais doit être mis à sa place. Beaucoup, verset 10, seront mis à part, purifiés et épurés. Et ce sont ceux à qui Dieu peut se révéler, ceux qui se sont humiliés sous la main puissante de Dieu, qui acceptent son action en nos jours, qui ne se contentent pas de parler de ce que Dieu a fait dans le passé, mais qui croient en ce que Dieu fait actuellement, qui croient en ce qu'il a promis pour cette époque. Je l'ai réécouté sur cassette en français dans les évangiles lors de mes trajets. J'aime bien écouter de temps en temps le Nouveau Testament de cette manière. Et comme le Seigneur a prononcé alors son jugement contre ceux qui n'avaient pas reconnu le temps de la visite de la grâce divine, il voulait les rassembler, mais ils n'ont pas écouté. Il voulait leur parler, mais ils n'y ont pas prêté attention. Lorsque Dieu agit sur terre, que ce soit par Moïse, par Abraham, par Élie, par Enoch, ou par n'importe lequel de ses serviteurs, il est temps que nous y prêtions attention. D'une manière générale, nous vivons à une époque de mélange total. Un tel mélange, quand je pense à cet article, on y voit des délégations d'églises pentecôtistes et de communauté religieuse romaine. Autrefois, cela aurait été, oui, il y a encore 20 ans, impensable. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, absolument impensable. Que s'est-il passé pendant cette période? Paul, en tant qu'apôtre et prophète du Nouveau Testament, contemple la fin des temps et voit la grande apostasie. Et il voit que l'homme du péché, l'enfant, le fils, l'enfant de la perdition, ne peut apparaître qu'après que la grande apostasie aura eu lieu. Qu'est-ce qui peut s'apostasier? Qu'est-ce qui peut tomber? Mais seulement ce qui y était attaché à un moment donné. Si une pomme n'était pas sur l'arbre, elle ne pourrait pas tomber, elle ne pourrait pas se détacher. Et quelle pomme tombe? Celles qui sont pourries, dit Frère Rousse. Il y a un ver dedans. À quoi servent les plus belles pommes et les plus beaux arbres si le ver y est? Et dans beaucoup d'autres, et dans beaucoup d'entre eux, le ver y est. Que Dieu en soit affligé. Et cela nous fait penser à Jean 15. Je suis la vigne et vous êtes. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, je le nettoyerai afin qu'il porte davantage de fruits. Et tout sarment qui ne porte pas de fruits sera coupé, se desséchera et sera jeté au feu. Nous ne constatons pas que de nombreuses personnes aient fait l'expérience de Dieu, qu'elles aient vécu une conversion allant jusqu'au baptême dans l'esprit. Nous ne le contestons pas. Mais pour en venir au fait, pour illustrer la parole du Seigneur par la comparaison tirée de Genèse 6, Luc 17, verset 26, ce qui s'est passé au jour de Noé se reproduira au jour du Fils de l'homme. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et je le répète aujourd'hui. Cela ne sert à rien de parler de manière générale des jours de Noé, pour ensuite peut-être dire il faisait la cour et se mariait. C'est ce qu'ils font depuis Adam. C'est une ordonnance divine. Le mariage a été institué par Dieu. Dieu n'a jamais prononcé contre le fait. Dieu ne s'est jamais prononcé contre le fait de se marier. Tout au plus contre le fait de ne pas le faire. Vous m'avez compris. Tout à fait. Très bien. Quelle était la détresse là-bas? La question est, qui a fait le mariage à qui? Et puis, laissez attentivement Genèse chapitre 6. Lisez attentivement. Lisez Genèse chapitre 6 et vous verrez ce qui y est écrit. Genèse chapitre 6 dit, verset 1, « Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier à la surface de la terre et qu'ils eurent aussi des filles, verset 2, et que les filles de Dieu, les fils plutôt de Dieu, virent la beauté des filles des hommes, ils en prirent pour femmes celles qui leur plaisaient le plus. Chacun d'entre nous sait qu'il y avait jusqu'alors deux lignées. L'une par Seth, c'était les enfants de Dieu. L'autre par Caïn, c'était la lignée humaine. Voici ce qui s'est passé. Et prenez-en tous bonne note et transposez-le à la situation actuelle. Les fils de Dieu se sont mélangés à la lignée de Caïn. Or, c'est de cette lignée pure que devait naître le Christ selon la chair. Et c'est pourquoi aucun mélange n'aurait dû avoir lieu. Mais cela s'est produit. Et savez-vous ce que Dieu a répondu à cela? Je vais vous le lire, verset 3. Alors le Seigneur dit, « Mon esprit ne restera pas à jamais dans l'homme, ne sera pas abaissé pour toujours dans l'homme. » Ainsi, cette lignée des fils de Dieu possédait même l'esprit de Dieu. Et Dieu a dit, « Mon esprit ne restera pas à jamais dans l'homme. » Humilié. Et Dieu a décidé de la fin de toute chair. Fils de Dieu ou non. Enfants des hommes ou non. Dieu les a tous abandonnés. Je vous le demande. Qu'est-ce qui est le plus difficile à accepter pour Dieu? Un fils de Dieu qui suit ses propres voies, qui ne se laisse pas corriger par l'Esprit de Dieu? Ou les enfants des hommes qui n'ont jamais eu de relation avec lui, qui ne lui ont jamais appartenu. Dieu a dû y mettre un terme, car ces deux lignées se sont croisées. Et comme je l'ai déjà dit, le Messie devait, d'un point de vue purement terrestre et extérieur, provenir de la lignée pure. Que se passe-t-il maintenant? Le grand mélange des enfants de Dieu avec les enfants de ce monde. Et même avec les incroyants. Un mélange total. Un croisement, comme à l'époque. Et alors on peut dire 100 fois, j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai vécu ceci et cela, j'ai expérimenté cela. Te laisses-tu alors corriger par l'Esprit de Dieu? Te laisses-tu remettre dans le droit chemin par la parole de Dieu? Aujourd'hui, Paul écrirait, comme dans la deuxième épître aux Corinthiens, qu'est-ce que l'incroyant a en commun avec le croyant? En quoi le Christ s'accorde-t-il à Béliam? Je me demande, en quoi des communautés religieuses, des assemblées pentecôtistes s'accordent-elles avec la communauté religieuse romaine? N'est-ce pas là une bonne question? En quoi s'accordent-elles? Tel. Il est écrit dans Amos 3, verset 3. Comment deux peuvent-ils marcher ensemble à moins d'être d'accord? Que se passe-t-il donc? Un grand croisement, un mélange comme il n'y en a jamais eu sur terre. Et on dit, voici le Christ et là est le Christ. Et que font tous les enfants de Dieu qui se vantent tant d'avoir le Saint-Esprit? Ils se moquent du prophète et disent, nous n'en avons pas besoin. Nous nous débrouillons très bien. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons Christ, nous avons la Bible et ça suffit, nous n'avons pas besoin d'un prophète. Oui, s'ils avaient le Christ et la Bible, alors ils auraient la promesse que Dieu enverrait encore une visite miséricordieuse à la fin des temps. Et ceux qu'il choisit, pour cela il les choisit, tout simplement. Mais voyez-vous, les hommes, même ceux qui ont reçu l'Esprit, ne se laissent plus corriger par l'Esprit de Dieu. Que devait ressentir le Seigneur Dieu, pardonnez-moi cette expression, lorsqu'il a vu que cette lignée diabolique et cette lignée divine se croisaient, se mélangeaient. Et je le répète, c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est ainsi que se déroule la vie normale. Il y a toujours des exceptions, mais c'est ainsi que Dieu l'avait prévu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui donner une aide qui lui soit assortie, semblable à lui. C'est bien, ajuste, mais le mélange, le croisement, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait un peuple appelé à part, mis à l'écart, qui lui appartienne en propre. C'est la même chose que Dieu veut aujourd'hui dans nos jours. Il ne veut ni mélange, ni produit de croisement. Il veut une épouse de la parole qui a été régénérée et qui est née de nouveau par le Saint-Esprit pour une espérance vivante. Il veut des fils et des filles de Dieu qui se laissent corriger par l'Esprit de Dieu, qui ne se pavane pas avec arrogance et ne se vante pas des choses qui se sont produites. Si elles se sont produites, c'est de toute façon le Seigneur qui les a accomplies. Par exemple, peu importe, par exemple, si aujourd'hui un Müller, un Mayer ou quel que soit leur nom, des évangélistes prient par centaines pour les malades. Et qui est celui qui guérit lorsque des miracles se produisent? C'est bien le Seigneur et non pas un homme. L'homme le plus grand évangéliste. Et excusez-moi, mais c'est ce qu'a dit Frère Branham. Celui qui a dit, j'ai la puissance de Dieu dans mon bras droit. Je l'ai vu moi-même à la télé là-bas. Et il a alors posé sa main droite sur l'écran. Et les gens dans toutes les maisons devaient faire de même. Et il a dit, maintenant nous sommes connectés à la puissance de Dieu qui est dans mon bras droit. Il y a autant de puissance dans le bras droit que dans le bras gauche. La puissance de Dieu réside dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et se manifeste là où l'on croit. Mais il y en aura alors qui penseront l'avoir vraiment fait et diront, n'avons-nous pas en ton nom? Et le Seigneur dira, éloignez-vous de vous, vous qui commettez l'iniquité. Nous souhaitons, et je le dis du fond du cœur, qu'il y ait ici une répétition des actes des apôtres dans l'enseignement, dans la vie, dans la manifestation de la puissance, qu'il en soit aujourd'hui à la fin comme il en était au commencement de l'Église. Et nous sommes convaincus que cela arrivera. Ce que Dieu ne veut pas, c'est le mélange qui a lieu actuellement. Et que dire de quoi de plus à ce sujet? Quand on voit cela, on ne peut se taire. Et on pourrait se demander, prédicateur, n'aurait-il pas été plus beau que tu aies mené une magnifique campagne d'évangélisation? Oui, le pape s'apprête lui aussi à évangéliser. La proclamation de l'évangile de Jésus-Christ englobe tout le dessein de notre Dieu. Elle comprend la parole prophétique, la parole apostolique, l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout en fait partie. Et quiconque souhaite prendre part à l'œuvre de Dieu en ces derniers jours doit croire aux promesses faites pour cette époque. Je voudrais conclure par cette réflexion. Le frère Goldner l'a d'ailleurs mentionné, le peuple d'Israël ne revient pas seulement par centaines ou par milliers, mais par centaines de milliers. Et pourquoi cela se produit-il? Parce que Dieu a dit par la bouche des prophètes, à la fin des jours, je vous ramènerai chez vous. J'ordonnerai au nord de les livrer et à l'ouest de ne pas les retenir. Ésaïe 43, verset 6. Tout est écrit. L'accomplissement des Écritures se déroule sous nos yeux. Et si notre Seigneur lui-même a dit que le figuier est le symbole d'Israël, comme il est écrit chez le prophète Osée 9, verset 10, lorsque le figuier et tous les autres arbres bourgeonneront. Alors le peuple d'Israël bourgeonnera, produira des bourgeons, s'épanouira, et tous les autres peuples aussi bourgeonneront, revendiqueront leurs droits d'une manière ou d'une autre. Tout cela s'accomplit de nos jours en accomplissement des saintes Écritures. Puisse Dieu nous faire prendre conscience à la fois de la gravité et du privilège de vivre cette époque. La gravité de prêter attention à la parole promise et à son accomplissement, et le privilège de rendre grâce pour la grâce qui nous a été accordée, de reconnaître notre époque et d'accueillir avec reconnaissance la visite divine de la grâce au sein de cette génération. En ce lieu, nous ne parlons pas à la place de Dieu. Nous ne parlons pas à côté de Dieu ou à sa place. Ici, nous laissons Dieu s'exprimer lui-même à travers sa parole. Et nous en sommes également heureux et reconnaissants de ne pas être tenus par aucune église, par aucune assemblée, ni aucune organisation de défendre leurs enseignements et leurs traditions. Nous sommes également reconnaissants envers Dieu de pouvoir en ce lieu proclamer véritablement tout le dessein de Dieu tel qu'il a été écrit. Et j'espère que tous croient de tout leur cœur. Dieu s'est adressé à nous tous de manière puissante ces derniers jours par sa parole vivante, par sa parole fraîchement révélée. On ne peut que dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Car vous le savez, celui qui n'a pas écouté a eu l'oreille percée et est resté à jamais asservi. Dieu a lancé un appel puissant. Il a confirmé sa parole et nous le voyons de nos propres yeux. Puissions-nous recevoir des cœurs reconnaissants. Aujourd'hui, nous rendrons grâce à Dieu tous ensemble et pas seulement à deux ou à trois. Dans une prière, en cœur, dans une prière commune, nous élèverons tous notre voix aujourd'hui pour remercier Dieu, notre Seigneur, pour sa visite miséricordieuse en ces jours-ci et pour sa parole glorieusement révélée. Elle est devenue la lampe de nos pieds. Voyez-vous le parallèle entre les jours de Noé et notre époque? Voyez-vous la comparaison faite par notre Seigneur? C'est là que le mystère est enfoui. Heureux celui qui peut le voir, car il peut rendre grâce à Dieu. Et celui-là ne tombera pas dans la confusion, dans le mélange, mais sera mis à part, purifié et épuré, comme nous l'avons lu dans le prophète Daniel. Que Dieu nous accorde la grâce d'appartenir à cette multitude, à ce groupe, à cette multitude, maintenant à la fin des temps. Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur ensemble. Frère Rousse va remercier ici et nous le faisons tous ensemble avec lui. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur pour les promesses de ta parole. Nous voyons que tout s'accomplit, ô Seigneur. Ce n'est pas seulement écrit, Seigneur. Tes paroles ne sont pas des paroles vides, mais elles sont vraies et certaines, ô Seigneur. Tu as parlé dès le commencement. Tu as révélé dès le début ce qui serait à la fin, ô Seigneur. Nous te remercions, ô Dieu, d'avoir ouvert nos yeux et de nous permettre de voir l'époque dans laquelle nous vivons, que tout doit s'accomplir, ô Seigneur, et que tout s'accomplit, ô Seigneur, avec l'Église issue des nations et avec ton peuple d'Israël. Ô Seigneur, Seigneur, nous le voyons. Tout doit s'accomplir ainsi, Seigneur. Mais nous voulons lever les yeux vers toi, Seigneur, et rester en communion avec toi. Oh Seigneur, et louer ton nom, Seigneur, non pas pour glorifier un homme, mais pour que la gloire te soit rendue. Nous t'adorons et te rendons grâce du plus profond de nos cœurs. Nous te disons merci pour tous ceux que tu as appelés, pour tous ceux qui ont accepté ton nom. Nous te remercions pour ton peuple que tu as parmi tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Seigneur, que la gloire soit à ton nom, toute la gloire à ton nom. Alléluia. Amen.